Bon matin, comme je suis honorée d'être devant vous, puis qu'on creuse ensemble la parole pour grandir dans la connaissance de Jésus. Hein, vous entendez depuis 2 semaines la série « Jésus et moi », puis c'est vraiment le désir de notre cœur de nous arrêter, puis d'ensemble vous amener à dire « Est-ce que je connais Jésus sur toutes ses facettes ?» Bien sûr que vous allez dire non, mais on veut grandir, on veut saisir encore plus à côté de quoi qu'on passe dans notre relation avec Jésus. Puis si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, bien, pasteur Jean-Frédéric nous parlait de est-ce qu'on saisit vraiment, puis est-ce qu'on vit surtout son amour inconditionnel, qu'on est l'objet de son amour de façon passionnée, jusqu'où qu'on reçoit même son amour. On peut dire, oui, je le lis, mais jusqu'où je le vis, que je suis aimée vraiment inconditionnellement. Puis avec pasteur Simplice, la semaine dernière, on voyait jusqu'où j'y fais confiance à Jésus. Jusqu'où, quand les circonstances de ma vie sont chambranlantes, où je traverse des épreuves, où c'est difficile, mais jusqu'où que je continue à garder les yeux sur Jésus en disant, mais Jésus, tu me vois, tu connais les circonstances, tu as des promesses pour moi, tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais pas. Alors, on est obligé de s'arrêter et de dire, jusqu'où mon niveau de confiance est en Jésus? Et aujourd'hui, mais c'est une autre facette de Jésus que je veux vous amener à voir. Puis avant de prier, j'aimerais nous remettre dans un contexte pour que vous compreniez après qu'est-ce qu'on va regarder sur Jésus. Et pour ceux qui connaissent peut-être moins bien la parole de Dieu, la Bible, dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible, qui couvre dans le fond à partir du moment où Dieu a créé l'être humain, puis jusqu'à la venue de Jésus sur cette terre, on va apprendre que Dieu a choisi un peuple, qu'à travers tous les gens, toutes les créatures qu'il a formées, il a posé son regard sur un peuple, puis il a dit, ça va être mon peuple. Je veux me révéler à ce peuple-là. Je veux leur montrer qui je suis. Je veux les aimer, je veux les conduire, je veux être leur Dieu. Et c'est le peuple d'Israël. Et si vous avez déjà lu un peu l'Ancien Testament, bien vous allez voir que ce peuple-là, encore une fois, je dis encore une fois parce que je pense à moi, parce que je me reconnais dans le peuple, mais le peuple avait cette difficulté-là à croire, à connaître, à prendre le temps de saisir vraiment qui est Dieu, de se faire laisser aimer par lui, de lui obéir. Alors, il prenait un paquet de chemins, il finissait par adorer d'autres dieux qui étaient dans les pays environnants, puis il bifurquait, puis il en vivait les conséquences. Pas que Dieu punissait, mais dans le sens où, bien, si tu as rejeté Dieu, bien, vas-y, va jusqu'au bout de ce que tu as choisi. Et ce peuple-là s'est retrouvé à un moment donné être esclave en Égypte. Et tout d'un coup, souffre parce qu'ils sont esclaves, parce que les travaux sont durs, parce que les Égyptiens, le pharaon est dur. Et là, le peuple dit, « Ah, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Où est-ce qu'on est rendu? C'est vrai qu'on a délaissé Dieu, on a voulu suivre notre façon de voir les choses. » Ils crient vers Dieu, ils élèvent leur voix, ils pleurent. Et Dieu entend, puis Dieu dit, « J'ai vu ton cœur repentant, j'ai vu ta souffrance, j'ai vu tes cris, je viens de sortir du pays d'Égypte. » Et là, c'est merveilleux, là, cette histoire-là, si vous ne l'avez jamais lue, mais c'est merveilleux de voir comment Dieu dit, « Je ne vais pas juste te sortir, je veux que tu vois ma grandeur, je veux que tu vois ma puissance, je veux que tu vois que je suis Dieu l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » Et quand Dieu sort son peuple, juste avant qu'il les amène tranquillement vers le pays qu'il a préparé pour eux, il va choisir dans le peuple un prophète, Moïse, puis dire, « Je vais te dire, Moïse, qu'est-ce que tu dois dire à mon peuple? Je veux que tu les enseignes. Je veux que tu les diriges. » Et c'est dans Deutéronome qu'on a cette annonce-là que Dieu veut qu'il fasse à son peuple. Alors, Deutéronome 6, les versets 1 à 3, je lis sur le PowerPoint. Alors, c'est Moïse qui parle au nom de Dieu. Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique, afin d'être heureux et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Là, j'ai oublié de mettre un autre petit bout, mais qui est tellement important, fait que je vais vous le lire à partir du verset 4. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. » Tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors, Moïse dit, Dieu, il y a des commandements, il y a des lois, il veut nous diriger, il veut pas nous laisser à nous-mêmes, à nos faux raisonnements, à nous ce qu'on penserait qui est vraiment bon, il veut nous diriger. Et je ne sais pas si vous savez, le nombre de commandements, de lois, d'ordonnances que ce peuple-là a fini par avoir, en tout cas, je ne sais pas, je ne l'ai pas compté, mais dans ma recherche, il y avait 613 ordonnances, lois, commandements qui avaient été donnés pour assurer le bon fonctionnement du peuple jusque dans la terre promise et aussi qui allait s'appliquer une fois aussi rendu dans la terre promise. Mais là, on parle d'un paquet d'ordonnances et de lois qui concernaient tous les sujets, là. Comment il fallait s'habiller, c'est quoi qu'il fallait manger, comment on règle nos conflits. Fait qu'il y en avait une multitude. Mais à travers tout ça, le cœur du Père était « Je ne veux pas vous laisser au hasard de ne pas trop savoir comment être ensemble, marcher ensemble, mais surtout comment m'honorer. Je suis votre Dieu. Je suis l'Éternel. Voici ce que je te demande aussi dans le fait d'être mon peuple. » Et il a donné, pour ceux qui le savent, bien, il y en a qui a donné, Dieu a donné 10 commandements précis qui vient sceller l'alliance entre Dieu et l'être humain. Mais bref, tout ça pour vous dire, je ne veux pas aller plus loin, mais dire 613 commandements, je ne sais pas si ça a fait comme vous de faire hey, « ça devait être quelque chose de fonctionner avec un paquet de règles, hein, une structure que Dieu demandait de respecter. » Alors, la question qu'on a, est-ce que ces 613 commandements-là, loi ordonnance, s'appliquent encore à nous? Alors non, fait que c'est quand même, mais il y a quand même quelque chose qui est important, et c'est Jésus qui va nous en parler, puis c'est cette facette-là de Jésus aujourd'hui que je veux vous présenter puis qu'on médite ensemble. Mais quand Jésus vient sur la terre, que Jésus commence son ministère, il y a des Juifs, il y a des descendants de ce peuple-là qui viennent voir Jésus, puis qu'eux autres ont encore dans leur tête qu'il y a 613 commandements, lois, ordonnances à appliquer. Et ils vont aller se présenter à Jésus. Deux personnes différentes, une qui a une bonne intention, puis une qui a une moins bonne intention, mais qui va s'adresser à Jésus pour lui poser une question. Alors, dans Matthieu 22, les versets 35 à 38, la parole nous dit qu'un du groupe qui est là devant Jésus, qui est le professeur de la loi, donc qui enseigne la loi, lui pose cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Alors, dans tout ce qu'on a appris, Jésus, y a-tu? T'es-tu en train de dire qu'il y en a un qui est moins important? On va essayer de te piéger, parce que dans le fond, c'était en train de dire qu'il y en aurait un de moins important. Bien, jusqu'où on peut faire confiance à ce qu'on a reçu, à ce que Dieu a dit? Et là, Jésus se positionne en disant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est lui le plus grand commandement. Puis c'est lui qu'on va creuser. Mais avant, on va voir une deuxième personne qui, elle, a une meilleure intention parce que c'est un scribe, c'est une personne qui retranscrit l'Ancien Testament, qui retranscrit les livres. Alors, son nez est souvent dans la parole. Et lui aussi va aller voir, il entend Jésus, puis va aller le voir. Et ça, c'est dans Marc 12, les versets 28 à 30. Un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Bref, il y avait une conversation avec des Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Alors ce matin, c'est ce qu'on va regarder. Est-ce qu'on aime Jésus, Dieu, de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre force? Bien sûr qu'on va arriver et on va faire « ouf ». Mais ce n'est pas pour nous décourager ce matin. Au contraire, c'est beaucoup plus pour lever nos yeux puis soupirer après ce que Jésus veut révéler à travers ce commandement-là. Alors, j'aimerais juste qu'on prie, puis on va regarder, j'ai trois points à regarder avec ce passage-là. Alors, Seigneur, ce matin, si ce n'est pas toi qui révèle ta volonté, qui révèle à nos cœurs ce que chacun de nous avons besoin, c'est en vain que je vais parler. Seigneur, on a besoin que par ton esprit, tu viennes saisir nos cœurs pour faire la lumière dans ce que notre âme, notre cœur a profondément besoin de connaître de toi, de vivre avec toi, d'être exhorté, d'être fortifié. Et merci que tu ne veux pas nous laisser à nous-mêmes dans nos faux raisonnements, mais tu veux nous enseigner. Tu es un bon papa, tu es le berger qui conduit ses brebis. Alors ta parole, tu nous l'as laissée, elle s'est transportée année après année. On l'a encore aujourd'hui, puis on peut s'y attacher parce que tu dis qu'elle est vivante. Elle fait une œuvre dans nos vies, c'est notre nourriture. Alors ce matin, on veut plonger les regards encore une fois dans ta parole. Fais l'œuvre qu'on a besoin et qu'on puisse grandir dans ta connaissance, Jésus. On veut te connaître, on veut vivre une relation profonde, même si on ne saisit pas toute la grandeur de ça. Seigneur, on est devant toi en disant, fais cette œuvre-là qu'on a besoin pour te connaître, Seigneur, et que notre âme, notre cœur puisse être attaché à toi et te servir digne comme tu es. Alors, Seigneur, fais ta volonté à travers ta parole ce matin. Vraiment, on te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai trois petits points. Premier petit point, à travers ce qu'on vient de voir que Jésus a dit, il a dit, c'est le plus grand commandement. Alors, ma première question pour vous, c'est comment vous réagissez quand vous entendez le mot « commandement ». C'est pas... c'est une proposition, c'est une possibilité, c'est une demande, c'est un commandement. Puis je ne pense pas qu'on évolue beaucoup dans une société où cette notion-là d'autorité, de recevoir un cadre, une structure, puis vous voyez, j'utilise même des mots que je fais attention, mais des ordres, des commandements, ça vient tout un peu nous ébranler si on reçoit ça comme ça. Mais c'est ma première question. C'est un commandement que Dieu a donné à son peuple. C'est un commandement que Jésus vient redire. Comment je réagis au fait de recevoir des commandements? Et donc, Commandement veut dire que j'ai un maître, que j'ai un seigneur. Et encore là, est-ce que moi, dans ma vie, je peux dire oui, j'ai un maître, ou il n'est pas question que j'aie de maître dans ma vie? C'est moi qui décide ce que je veux faire, quand je veux le faire, comment le faire. Et vous savez, c'est ça qui était dans le cœur, dans nos cœurs, avant qu'on puisse connaître la profondeur de l'amour de Jésus quand il est mort sur la croix pour chacun de nous. On faisait les choses comme on voulait, comme on pensait. Mais il reste en nous, même si on est des enfants de Dieu, il y a cette petite chair-là qui continue encore à s'activer et à dire, je voudrais donc faire les affaires comme moi je veux. Et là, Jésus, je ne sais pas avec quel ton il l'a dit, mais il est plein d'amour, plein de douceur, plein de bonté. Alors, j'imagine qu'il n'a pas dit ça avec un ton arrogant et bête, mais quand même ferme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Alors, première question, c'est quoi ma réaction quand je suis devant un ordre, un commandement, quelqu'un qui a une autorité, qui a l'autorité pour me dire « c'est comme ça que les choses doivent se faire ». Et vous savez, quand Jésus nous demande quelque chose, c'est parce que lui-même le fait. Il ne nous demandera jamais quelque chose que lui, il dit non. Moi, je vais vous demander des choses, mais moi, il va parler de lui. Puis il va parler de sa relation avec son Père. Et c'est dans Jean 12, le verset 49, Jésus va dire, je ne parle pas de ma propre initiative. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Alors, Jésus dit lui-même, j'ai cette relation-là avec mon Père où, à travers le fait qu'on est unis, qu'on s'aime, qu'on est attachés, bien sûr que comme fils, je veux obéir à ce que mon Père va dire. Et c'est merveilleux que Jésus l'ait fait parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus, c'est lui qui nous montre qui est le Père. Alors, en regardant Jésus, en regardant sa vie, il nous aide. Il dit que c'est le Dieu visible du Dieu invisible. On est capable de comprendre ou de voir qui est Dieu, le Père, à travers la vie de Jésus. Alors, c'est merveilleux quand on se pose des questions sur qui est vraiment Jésus. On peut regarder à Jésus, qui est Dieu. On peut regarder à Jésus pour apprendre à connaître Dieu le Père. Mais Jésus dit, moi-même, je prends plaisir à obéir à mon Père. Je ne parle pas par moi-même, je ne ferai pas les choses comme moi je les veux, bien que je pourrais avoir une volonté qui pourrait être différente de celle de mon Père, mais non, je reviens toujours au fait de vouloir obéir à mon Père. Alors, c'est la première réflexion qu'on a à avoir. Est-ce que je connais Jésus comme un maître, comme un Seigneur? Parce que le commandement, c'est « tu aimeras le Seigneur, ton Dieu ». Donc, ça implique que j'ai un Seigneur, sinon ce commandement-là ne s'applique pas. Alors, est-ce que j'ai un Seigneur? Est-ce que j'ai compris dans le fait de vouloir le connaître, de me rapprocher de lui? Non seulement j'ai connu de lui qui est le Sauveur, qui est venu porter la condamnation de mes péchés sur la croix, qui est venu permettre que je sois réconciliée avec le Père, qui est venu me laver, que je suis purifiée, qui m'a enlevé mes vêtements sales à travers le péché que je pouvais avoir, qui me caractérisait puis qui me séparait de Dieu. C'est-à-dire, j'ai connu l'amour de Christ parce qu'il a donné sa vie pour moi. Puis est-ce que maintenant, parce que je connais son amour jusqu'à donner sa vie, il devient mon Seigneur? J'accepte de lui qu'il devienne mon maître. Et si vous dites non en disant, non, j'en veux pas de maître, vous en avez nécessairement un autre parce que la parole dit qu'on est esclave. Alors, des fois, ça peut être différentes choses dans notre cœur, mais soyez sûr que si vous n'êtes pas en train de servir Jésus comme maître, vous en servez un autre. Et Jésus, il dit de lui qu'il est un maître doux et humble de cœur. Alors, il ne se présente pas avec nous avec, comme je vous dis, une arrogance, avec, mais il est doux, puis il est humble de cœur. Et par cette attitude-là, il nous montre Dieu le Père aussi. Alors, mais même si Jésus est doux et humble de cœur, la parole de Dieu va nous montrer, je n'ai pas sorti le verset, mais il va nous montrer que même si des gens l'ont côtoyé, puis ont vu la douceur, l'humilité, bien, ils ont refusé que Jésus soit leur roi. Ils ont fait, il n'est pas question qu'il soit notre roi. Parce qu'à un moment donné, on lui a posé des questions, puis Jésus a fini par dire, oui, je suis le roi des rois. Puis ils ont fait, oh non, c'est un blasphème, ça n'a pas de bon sens, on ne veut pas de lui. Puis ça a été jusqu'à le crucifier. On ne veut pas de roi. On ne te veut pas comme roi. Alors même s'il était doux, humble de cœur, on ne veut pas de toi comme roi. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas besoin. Nous, on trouve qu'on l'a l'affaire. On n'a pas besoin d'un sauveur, on n'a pas besoin d'un seigneur. On trouve qu'on l'a l'affaire. Alors, malgré ses caractéristiques tellement grandes de son cœur, malgré tout l'amour, on voit des gens qui résistent à venir à Jésus parce qu'ils ne voient pas la profondeur de leur besoin d'un sauveur, puis éventuellement d'un Seigneur. Alors, premier, est-ce que j'accepte les commandements? Comment je vis ça? Est-ce que j'ai une relation avec Jésus qui est mon maître, qui est mon berger, qui est doux, qui est homme de cœur, mais qui me dirige? Qui me dirige? Et la deuxième partie, ça nous dit d'aimer Dieu de tout notre cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, aimer Dieu de tout notre cœur? Puis là, ça nous parle de notre âme, de nos pensées, de toutes nos forces. Ce matin, je ne voulais pas commencer à décortiquer, mais je pense qu'on est capable de comprendre que ça veut dire de toute notre personne. Que toute notre personne, autant dans notre façon de penser que dans nos attachements du cœur, que dans notre énergie physique, bien, le commandement, c'est aime Dieu, aime le Seigneur de toute ta personne. Alors, encore là, je pourrais vous demander d'après toi qu'est-ce que ça veut dire, puis là, on pourrait tout avoir peut-être des petites idées différentes, mais on va aller voir la parole, parce que la parole, elle vient nous dire c'est quoi aimer Dieu de tout son cœur. Alors, je vous propose trois versets dans Jean 14, le verset 15. « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. » Jean 14, 21. « Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et dans Jean 5, les versets 2 et 3, « Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas pénibles. » On pourrait avoir des choses à discuter. Mais je sens, sans commencer à dire, est-ce que dans le fond, aimer Dieu, c'est se faire une liste de tout ce qu'il m'a dit, puis là, il faut que je les suive, parce que si ce n'est pas ça que je fais, bien, dans le fond, je suis en train de lui montrer que je ne l'aime pas. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il est en train de nous dire à travers ces passages-là? C'est certainement pas ça. Mais je pense qu'il nous interpelle, pas je pense, je crois qu'il nous interpelle à dire, est-ce que j'ai une attitude de cœur qui veut se laisser diriger, qui veut se laisser montrer le chemin, qui veut refuser de suivre, mais moi, je pense, mais moi, je crois, mais ça a de l'allure la façon dont je pense. Est-ce que j'ai une attitude où, Seigneur, avant que moi je pense, toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, qu'est-ce que tu dis? Toi, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Est-ce que je suis caractérisée par un cœur qui veut se laisser conduire par Jésus-Christ à travers ce qu'il me dit, à travers son esprit qui habite en moi? Alors, l'amour qu'on a d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa personne, revient à « Est-ce que j'ai un cœur qui accepte d'avoir un Seigneur, qui accepte de se laisser conduire, même si bien des fois, ses pensées sont très au-dessus des nôtres et on aurait bien des choses à négocier avec et à dire, « Me semble, ça ne marche pas. » Mais est-ce qu'on revient à, « Ouais. » Mais Jésus, toi puis moi, non seulement je sais que tu m'aimes, comme on a vu il y a 2 semaines, non seulement je veux te faire confiance, mais à cause que tu m'aimes, puis parce que je te fais confiance, je veux t'obéir. Je veux te suivre dans ce que tu me demandes. Même si tout en moi ne comprend pas toujours le pourquoi de certaines choses que tu me demandes. Puis on voit que d'aimer Dieu, c'est non seulement d'avoir ce cœur-là soumis qui dit haut et fort que j'ai un Seigneur, j'ai un maître, c'est pas moi le maître de ma vie, mais qui va aussi dire mes frères et mes sœurs, c'est trop important. Parce que si je sers Jésus, ben mes frères et mes sœurs qui ont son esprit, ben c'est logique que d'aller prendre soin et de vouloir aimer mon frère et ma sœur parce que ben il est habité de l'esprit de Jésus. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas aimer les autres qui sont pas à Jésus, mais je suis juste en train de dire qu'ici c'est important de voir comment on voit le fait de aimer, de prendre soin, de considérer le bien-être, de venir au secours des besoins de nos frères et de nos sœurs, quels qu'ils soient, pas juste de notre petite assemblée. Des fois, c'est plus large que ça. Mais la parole nous dit qu'aimer Dieu, c'est aussi aimer nos frères. Et là, on pourrait creuser encore plus un Jean parce qu'il va nous dire, ben, si tu n'aimes pas ton frère et ta sœur que tu vois, comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Alors, la barre est haute. La barre est haute. Et quand on voit qu'on n'est pas capable, puis qu'on voit que la barre est haute, qu'est-ce qu'on fait humainement? On essaie de baisser la règle. Bien, ça ne doit pas être tout à fait ça que Jésus voulait dire. Oui, mais là, je ne suis pas sûre que Jésus dit ça avec ce frère-là ou cette sœur-là. Je ne pense vraiment pas ça que c'est ça qu'il dit. Puis là, on essaie de baisser la règle pour la rendre humainement capable d'y répondre. Et c'est là qu'on est obligé de faire. Non, la règle, elle demeure, le commandement, il demeure. Mais que je ne suis pas à la hauteur. Que je ne suis pas à la hauteur. Mais je n'ai pas à diminuer la règle. Je n'ai pas à la changer. Je n'ai pas à la falsifier. J'ai un Seigneur, j'ai un maître qui me dit. Qui me dit, c'est ça que je te demande. Alors, oups, qu'est-ce que je fais quand je vois que c'est trop gros, que c'est au-delà de mes capacités? Bien, certainement pas, c'est de redevenir notre maître et nous-mêmes de faire des catégories et de faire des petites exceptions. Alors, quand Jésus nous dit, aimez vos ennemis, bénissez-les, on peut peut-être essayer de changer ça un peu. On peut peut-être... Qu'est-ce que ça veut vraiment dire ennemi, aimer? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire aimer dans le fond? Alors, on est très bon pour essayer de changer un peu l'ordonnance qui nous est donnée, le commandement. Le Seigneur qui nous dit pardonner. Jésus qui nous dit que ton surplus au plan financier serve à répondre aux besoins de celui qui n'en a pas. Oh! Comment je gère mes aspects financiers? Comment je gère mon temps? Quand tu sais que ton frère est dans le besoin puis que tu ne vas pas répondre, puis tu savais qu'il avait besoin, ben, le Seigneur va dire, ben, c'est un péché. Tu savais c'était quoi de faire le bien puis tu ne l'as pas fait. Je veux dire, on ne bouge pas beaucoup, là. Rapidement, on fait, hey, Seigneur, j'ai vraiment besoin que tu viennes me transformer parce que quand je regarde tes commandements, il n'est pas question que je les falsifie ou que je cherche à les changer, mais j'ai besoin vraiment de toi pour apprendre à t'aimer de toute mon âme, de tout mon cœur, de toute ma force, de tout mon esprit. Alors, c'est la question, est-ce que j'ai un maître? Est-ce que aimer Dieu de tout mon cœur, c'est dire, dans le fond, c'est d'accepter d'être dirigé, d'avoir un berger, d'avoir un maître qui me conduit. Est-ce que j'accepte que quand je vois des commandements qui viennent m'entrechoquer en dedans, bien, je ne les diminue pas, mais Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours, parce que comment je peux arriver à faire quelque chose comme ça que tu me demandes? Alors, est-ce que ça caractérise votre relation avec Jésus? Le cri de votre cœur pour dire, je veux vraiment t'aimer de tout mon cœur, mais j'ai besoin vraiment de toi. Mais si jamais ça ne nous tente pas, je pense que je suis peut-être la seule, mais des fois, je n'ai pas envie. Alors, si je n'ai pas envie, non, je ne la diminuerai pas ta parole, je ne la changerai pas, je le vois que c'est ça que tu me demandes, puis je ne veux pas. C'est non. Puis c'est non. Puis il n'y en est pas question. Je ne sais pas si ça vous arrive d'être de même devant Dieu, mais... Et Jésus va venir nous donner une parabole, va venir nous donner une histoire sur cet aspect-là de notre cœur quand on fait non. Il n'y en est pas question. Alors, dans Matthieu 21, les versets 28 à 31, Jésus va dire, « Que pensez-vous de l'histoire que voici? » ajouta Jésus. « Un homme avait deux fils. » Il alla trouver le premier et lui dit, « Mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. »« J'en ai pas envie, » lui répondit celui-ci. Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande. Celui-ci répondit, « Oui, mon Seigneur, j'y vais. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? C'est le premier, répondirent-ils. Et Jésus ajouta, vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Alors là, on est dans un contexte où Jésus est en train de parler à des pharisiens. Nous, on est des fils d'Abraham, Nous, on est des fils de Dieu, puis nous, on l'a l'affaire. Et Jésus va venir utiliser cette parabole-là pour les entrechoquer, en tout cas les faire réfléchir. Et on voit tout de suite qu'il vient mettre à la lumière cette personne-là qui ose dire « Non, moi je n'irai pas, je ne me ferai pas à croire, oui, oui, puis je ne vais pas le faire, puis après personne ne va le savoir. Non. » Je suis devant Dieu, puis je vais dire non. Puis ici, on ne voit pas que le Père a eu une réaction particulière. C'est pas dit. Sauf qu'on voit que le Fils fait, « Ouais, j'ai dit non, mais j'ai des regrets. » Et là, on a besoin de se poser la question, pourquoi tout d'un coup, cet homme-là aurait des regrets? Et Jésus va donner tellement d'exemples dans sa parole, où il va nous dire que quand on réalise, puis qu'on se remet devant la croix, où on réalise l'amour que Jésus a eu pour nous racheter, pour qu'on puisse être réconcilié avec le Père, quand on se rappelle quand on a réalisé, j'ai besoin vraiment d'un sauveur, mon cœur est tellement tortueux, il ne cherche pas Dieu, j'ai besoin d'être sauvé, d'être là. Quand on se rappelle cette décision-là qu'on a pu prendre de dire, Jésus, j'accepte ton sacrifice, c'est lui qui vient couvrir mes péchés, je le crois que tu es le Fils de Dieu, tu m'as lavé, c'est terminé, tu as dit même sur la croix, tout est accompli. Quand je réalise que j'ai besoin de ton salut, en moi, tu viens faire ton habitation, tu viens me donner ton esprit, puis en moi, je commence à être transformée, mais je réalise la grandeur de l'amour que tu as pour moi. Et j'ose croire, puis si vous êtes comme moi, je ne me reprêche pas ça souvent tous les jours, mais j'aurais donc avantage à m'arrêter à tous les jours, puis à me rappeler que cette relation-là avec Jésus, elle a commencé, ou du moins, elle a pris un tournant déterminant à partir du moment où Jésus est devenu mon sauveur. Alors, si je me rappelle tous les jours, Si je peux dire papa, Abba Père, c'est à cause de Jésus. Si je peux dire « Ah, Dieu, intervient », bien, c'est parce que je sais que Dieu m'entend. Jésus m'a rétabli la relation avec le Père. Si je peux dire un jour « Je vais voir Dieu face à face », bien, c'est parce que Jésus a rétabli la relation avec mon Père. Alors, quand tout d'un coup, mon cœur devient plus oublieux, puis qu'il se rappelle « Hey, oui, j'ai un Seigneur, j'ai un Sauveur, j'ai un Père, j'ai l'Esprit-Saint qui m'habite », mais là, c'est quoi que je fais là de dire à mon maître qui dit, bien, j'aimerais que tu fasses ça maintenant? Non. On se trouve assez vite égoïste, puis on n'a pas besoin que personne nous le dise. Si on est devant la croix, puis qu'on voit qu'est-ce que Jésus a fait pour nous, ça pousse à l'intérieur de nous. Alors, quand pasteur Jean-Frédéric nous parlait, est-ce qu'on la reçoit l'amour de Jésus? Mais quand on reçoit l'amour de Jésus, ça ne peut pas rester stérile en nous. Alors oui, on va dire non, parce que bon, on veut encore des fois diriger à notre façon, mais ça reste pas là. Ça vire de bord dans notre cœur, puis OK, je vais y aller. Mais j'aimerais juste vous dire que quand on dit non, ça ne me tente pas, bien, c'est correct de le dire devant Dieu. Il n'y a rien de pire que de se faire accroire comme l'autre monsieur dans l'histoire qui dit oui, je vais y aller, puis qui ne va pas. Bien, il n'y a rien de pire, on n'est pas dans la vérité. Alors, je peux-tu être devant Dieu en disant, bien, je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, mais là, je veux te dire que ça ne me tente pas bien. Je trouve ça vraiment difficile. Puis voici ce que j'ai peur qu'arrive. Puis je peux épancher mon cœur, puis vous allez voir qu'en faisant ça, il y a quelque chose qui va virer dans votre cœur. Ouais, mais tu m'aimes tellement. Tu m'aimes tellement. Je me réfugie dans ton amour. Tu m'aimes tellement. Je t'ai tellement vu souvent agir dans ma vie. Ah, je te fais confiance. Ah, je revois. Puis par son esprit en nous, il nous rappelle. Puis on fait OK, je vais y aller travailler dans la vigne. Alors, c'est lui qui a fait la volonté du Père. C'est lui qui a aimé de tout son cœur, de toute son âme. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est toujours oui, non, on est des fois non. Mais on a-tu l'honnêteté d'aller à Jésus puis dire, ouf, ça c'est difficile vraiment pour moi. Et vous savez, le meilleur exemple, c'est Jésus. C'est dans Luc 22, les versets 41 à 44. Jésus est dans le jardin de Gethsémané. Il sait qu'il s'en va être crucifié. Et la parole nous dit qu'il a été se retirer pour prier son Père. Alors, verset 41, il se retira à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria ainsi, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. L'angoisse le saisit, sa prière se fit de plus en plus pressante, sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Jésus aussi, il a fait, « Ah, ça ne me tente pas. Ah, si cette coupe-là pouvait passer. » Mais l'instant de quelques secondes, puis après, non. Je te dis ça, mais c'est ta volonté que je veux qu'il se fasse. C'est vraiment ta volonté que je veux qu'il se fasse, Père. Alors, si Jésus a osé dire à son Père, « T'aurais-tu une autre façon? » Comment ça que nous, on ne pourrait pas avoir cet accès-là à notre Père céleste, à Jésus, pour dire, « Ouf, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. » Et c'est merveilleux parce qu'on voit que Dieu le Père a envoyé un ange à Jésus pour le fortifier. Ça n'a pas changé les circonstances, mais ça a changé la présence, ça a changé que je ne suis pas tout seul. Dieu m'a entendu, il a envoyé un ange. Et pourtant, dans son corps, on va dire l'angoisse le saisit, les grumeaux, tellement qu'il est anxieux, tout son corps a des réactions. Mais il y a un ange qui est venu le fortifier. Alors, ça ne nous tente pas. C'est correct d'aller le nommer à Jésus et de se laisser toucher à nouveau par son amour, sa compassion, mais en même temps sa fermeté. Fais-moi confiance. Si je te dis à gauche, c'est parce qu'à gauche, c'est là que ça va être le meilleur pour toi. Je suis ton bon berger qui te conduit vers des eaux paisibles. Tu ne comprends pas, tu as l'impression que ça n'a pas de bon sens. Fais-moi confiance. Alors, on revient à la semaine passée. Est-ce que je fais confiance à Jésus? Puis que je peux dire, oui, c'est mon maître. C'est mon maître. Alors, ce qu'on vient de voir dans l'exemple de cet homme-là qui a fait non, puis qui après y va, puis que la parole dit il a regretté, bien, c'est ce qu'on va appeler la repentance. C'est je constate l'état de mon cœur et je suis vraiment attristée, mais encore là, pas parce que c'est le maître dans l'histoire qui est venu l'accuser, puis non, c'est moi avec moi-même. Et nous, comme enfants de Dieu, parce qu'on a l'Esprit Saint, on voit dans notre cœur que ce qui est là dans notre cœur, oh, je veux tellement t'aimer. Je veux tellement t'aimer parce que je les ai les yeux sur la croix. Je sais ce que tu as fait pour moi, mais j'y arrive tellement pas. Mais je ne baisserai pas les standards, mais j'ai besoin de me repentir. J'ai besoin d'être devant toi en disant, je le vois donc mon cœur, comment il a encore besoin de transformation. Je ne me ferai pas à croire n'importe quoi. Puis ce matin, c'est quelque chose que je voulais vraiment axer. C'est sur le fait qu'il y a beaucoup de repos dans la repentance. Il n'y a rien de pire que de se battre pour ne pas se faire à croire un paquet de choses. Ben non, je ne suis pas vraiment de même. Puis, et qu'on s'en fait des faux raisonnements puis des protections qui font juste nous éloigner puis nous garder tout seuls. Mais dans la repentance, c'est vrai que mon cœur est comme ça. C'est vrai que j'aime pas. C'est vrai que je pardonne pas. C'est vrai que je suis égoïste. C'est vrai que je suis orgueilleux. Il y a beaucoup de repos quand on baisse les bras. Parce qu'à partir du moment où on dit ça, on a un Seigneur, on a un berger qui fait « Ben, je te pardonne, puis je vais te transformer. » Je vais marcher avec toi, on se relève, puis on continue. On n'a pas un maître qui va nous accuser quand on vient se repentir en déclarant nos péchés, nos manquements. Il n'est pas comme ça, Jésus. Alors, si c'est ça que vous vivez, qu'à chaque fois que vous dites, « Ah, mon cœur est donc bien dur, égoïste, puis que là, ça vous condamne », ça, c'est pas Jésus. Ça, c'est l'ennemi de nos âmes qui en profite pour venir vous caler. Mais quand vous êtes avec Jésus, c'est le contraire. Il y a du repos dans le fait de dire, viens à mon secours, je vois comment mon cœur manque d'amour. Et premièrement, c'est toi que j'aime pas de tout mon cœur, de toute mon âme. Je veux pas t'obéir sur tel aspect. Fait que vous comprendrez que c'est l'histoire d'une vie. On a besoin à tous les jours de, Seigneur, je viens de voir ça encore dans mon cœur, je te demande pardon. Et repentir et confesser, c'est deux choses. C'est pas juste de dire « Ah oui, je te demande pardon », c'est après je me relève et je commence à agir dans le sens de ce que tu m'as demandé. Alors, et il nous a dit qu'il donne le vouloir et le faire. Alors, encore là, on va prier « Rends-moi capable, rends-moi capable ». Mais là, Dieu va dire « Mais t'es capable, je t'ai donné mon esprit ». Oh, non, j'aime mieux croire que je suis encore pas capable. Puis je vais attendre que tu viennes le faire, puis que tout d'un coup, ça me tente. Puis vous le savez que tout en nous réagit, puis on a besoin de dire, je vois mon cœur, je te demande pardon, Seigneur, je te demande de m'aider, mais de se lever, puis de changer de chemin, de passer à l'action. Dans le premier pas que Dieu nous montrera, on a à se lever, puis à avancer. Alors, est-ce que je connais Jésus comme ça? Comme celui qui est mon maître puis qui vient me montrer comment je dois changer, où je dois lui demander pardon, qu'est-ce que je dois changer, puis où je peux aller devant lui pour dire aide-moi parce que c'est pas mal contre-intuitif cette affaire-là en l'intérieur de moi. J'ai besoin que ton esprit règne dans tout mon être. Je veux vous laisser avec un roi dans l'Ancien Testament qu'on va dire de lui. Qui est revenu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée à Dieu. Et c'est le roi Josias. Et Josias était un roi qui un jour s'est retrouvé face aux Écritures, aux textes sacrés qui, en tout cas sensiblement, qu'il n'avait pas lu ou ça faisait un bout qu'il n'avait pas entendu, bref. Mais la journée que Josias, qui est le roi du peuple de Dieu, qui lit les Écritures et il se rend compte de tout ce que Dieu demande, et Josias est profondément troublé. La parole va dire qu'il déchire ses vêtements, ça c'était un signe de repentance, va crier à l'Éternel, il va faire « Mais c'est tellement pas comme ça qu'on se conduit ici. » Alors dans 2 Rois, le chapitre 23, le verset 24, à partir du verset 24, Josias fit disparaître du pays de Juda et de Jérusalem ceux qui évoquaient les esprits des morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Il fit détruire les statuettes sacrées, les idoles et tous les autres objets de culte païens pour faire respecter les articles de la loi contenus dans le livre que le prêtre Hilkia avait retrouvé dans le temple de l'Éternel. Aucun roi avant Josias ne revint comme lui à l'Éternel de tout son cœur, de tout son être et de toutes ses forces en observant toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. On va dire de Josias qui a pris action. Il n'a pas juste été profondément troublé, repentant, en voyant comment je suis en train de conduire le peuple, mais aussi comment le peuple font comme choix. Il s'est levé et il est venu détruire. Il a posé des actions très précises pour que maintenant les gens n'adorent plus d'autres dieux, se consacrent à d'autres pratiques qui faisaient partie du monde environnant. Puis il a fait, c'est terminé. On se lève, puis on se met à servir Dieu l'Éternel. Alors, soyons des Josias qui acceptent que la parole de Dieu, que l'Esprit Saint vienne percuter notre cœur, puis nous amène à faire, j'ai vraiment besoin de me repentir sur cet aspect-là, parce que j'ai un Seigneur qui est doux, qui est homme de cœur, mais qui me dirige vers des eaux paisibles. Il me promet que ce chemin-là, c'est pour mon bonheur. Parce que sur ce chemin-là, je vais apprendre à le connaître tellement de façon intime que ça va venir répondre aux besoins les plus profonds de mon cœur. Alors, je vous laisse avec un verset. C'est dans Nombre. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux Israélites pour leur dire de se faire eux et tous leurs descendants des franges sur les bords de leurs vêtements, en passant dans chacune un cordon de pourpre violette. Ainsi, lorsque vous verrez ces franges, vous penserez à tous les commandements de l'Éternel pour les appliquer, et vous ne vous égarerez pas en suivant les désirs de votre cœur et de vos yeux qui vous incitent à l'infidélité. Ainsi, vous vous souviendrez de tous mes commandements, vous y obéirez et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Oui, je suis l'Éternel, votre Dieu. » Alors, je ne suis pas en train de vous donner ça pour que vous fassiez un vêtement avec des fils de couleur, mais si Dieu a trouvé important de dire à son peuple, comment tu pourrais t'organiser pour te souvenir des commandements? Puis c'est intéressant parce qu'il dit, OK, tu as un vêtement, mais souviens-toi que c'est moi qui t'ai sorti de l'Égypte. Alors, est-ce qu'on passe du temps à revenir à la croix, à revenir là où on a goûté au salut de Jésus, où on se rappelle qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie, ce que Jésus a fait dans notre vie, et c'est là qu'on reprend le chemin avec Jésus maintenant. Oui, tu es mon sauveur et tu es mon Seigneur. Alors, ce matin, j'aimerais terminer dans la prière. Et si à travers ce qu'on vient de se dire, vous dites, je pense que Jésus, de dire que c'est mon Seigneur, j'ai abandonné ça depuis un temps où je ne pensais pas que c'était ça l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, qui devienne mon Seigneur. Bien, je veux prier ce matin que vous puissiez vous présenter tel que vous êtes devant lui et que vous puissiez l'avoir, cette discussion-là, sincère avec lui. en reconnaissant où vous voyez que vous avez arrêté de le suivre, qui n'est plus votre Seigneur, en demandant pardon, en criant à lui à nouveau, parce que vous vous souvenez de ce qu'il a fait à la croix, bien, c'est ça qui vous ramène en disant « Je veux que tu sois mon Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. » Alors, on va prier avant de terminer. Seigneur, on a besoin que par ton esprit, par ton action à toi, tu saisisses nos cœurs. Seigneur, ce n'est pas humain, ce n'est pas dans le naturel qu'on peut saisir la grandeur du besoin qu'on avait dans le fait d'avoir besoin d'un sauveur qui nous rachète, qui nous lave, qui nous purifie. C'est parce que c'est toi qui es venu nous le révéler par ton esprit. Et c'est d'abord ma prière, Seigneur, qu'à travers nous qui sommes ici devant toi, viens te révéler par ton esprit sur ce besoin-là de nos âmes, s'il y en a qui ne l'ont pas compris, qui n'ont pas saisi, qui n'ont pas réalisé, qui faisaient leur vie de leur façon, en disant « Dieu, il peut se rajouter de temps en temps », qui n'avaient pas réalisé que cette conduite-là les amenait à être loin de toi pour l'éternité. Seigneur, viens saisir chacun des cœurs qui ne proclament pas ce matin dire « J'ai un sauveur, mais j'ai aussi un Seigneur. » Seigneur, ramène-nous à qui tu es. Ramène-nous à ce qu'on connaît de toi. Viens redire à nos cœurs combien tu nous aimes jusqu'à donner ta vie. Viens redire à nos cœurs combien tu étais prêt à payer ce prix-là, même si on aurait été seul sur cette terre. Tu l'aurais fait pour chacun de nous parce que tu la veux, la relation avec nous, ton Père, l'Esprit-Saint, ensemble, pour l'éternité. Alors, je te prie, Seigneur, que tu viennes incliner, faire cette œuvre-là en nous où on va incliner notre cœur devant toi et te demander pardon pour tous les endroits où on te dit non, là-dessus, tu ne seras pas mon Seigneur. Ça, c'est non. Seigneur, viens nous montrer combien ce chemin-là, non seulement il t'attriste, mais il est pour notre perdition, parce que c'est toi, notre papa, tu sais ce qu'on a besoin, c'est toi, notre berger. Alors, trouve en nous des cœurs qui vont te demander pardon, qui veulent prendre ce matin la décision de t'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toutes ses pensées, parce que ton esprit veut nous rendre capables de marcher dans ce chemin-là. Alors, je te prie qu'on puisse accueillir ton pardon, que là où dans nos cœurs, on est peut-être découragé ou attristé de ce qu'on voit, bien, Seigneur, que personne ici ressorte condamné, que personne ressorte ici en disant, en se tapant sur la tête, mais en levant la tête puis en accueillant ton amour, parce que ce que tu leur dis, c'est lève-toi. Lève-toi, on continue à marcher ensemble. Je te pardonne, lève-toi, on marche ensemble. Et je te connais, je le sais de comment tu es fait, alors fais-moi confiance. Seigneur, qu'on accueille ton pardon, qu'on accueille ton amour et qu'on marche dans une obéissance qui n'est pas un fardeau, mais une obéissance parce qu'on sait que tu es notre bon berger puis que tu es notre sauveur et Seigneur. Alors viens nous convaincre, selon ce que chacun a besoin ici, que ta volonté soit faite par éternel. Et c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.